Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Alors tout le monde s'attendait à la venue de Jean-Marie Le Pen à l'université d'été du Front National. On s'attendait à ce que l'ancien président d'honneur du parti fasse des siennes, comme d'habitude. Mais pour la première fois depuis plusieurs semaines, la boulette ne revient pas à ce grand-père délaissé de presque tous. Je vous laisse quelques secondes pour deviner un petit peu qui est le grand gagnant. Attention, bah oui, Nicolas Sarkozy bien sûr. Alors tous les médias en parlent, mais au cas où l'info vous aurait échappé, les cours ont repris, donc les soirées étudiantes aussi. Qui n'a pas entendu cette sublime phrase ?
Il y a quelque chose auquel je suis très attaché. C'est que la France, de toute éternité, ait toujours été du côté des dictateurs.
Et oui, le numéro 1 du Parti des Républicains a anéanti un discours qui était pourtant bien parti. Cette phrase prononcée à la Beaule lors de l'université d'été du parti a soulevé pas mal d'émoi. La tête d'Alain Juppé est d'ailleurs exceptionnelle à ce moment-là. Alors, bizarrement, moi, elle m'a beaucoup fait rire, parce que gouvernement de gauche comme de droite, c'est pas tout à fait faux non plus. On va peut-être pas remonter jusqu'à Pétain, mais juste de quelques années. Alors, Kadhafi, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Dictateur, Libye, invité d'honneur, 14 juillet 2012. Et les petits voyages de l'ancien président dans un ranch privé du roi d'Arabie Saoudite en 2009, par exemple. Bref, allez, encore plus proche maintenant, temporellement parlant. Le 14 juillet 2015, le président mexicain Enrique Peña Nieto est l'invité d'honneur du défilé. Alors, c'est pas l'homme le politique le plus honnête de la planète, faut le dire. Il y a encore 43 étudiants qui sont portés disparus depuis un an dans son pays. On retiendra que Nicolas Sarkozy a prononcé son discours sans notes, selon LCP. Ça explique peut-être la boulette. Mais bref, tout ça pour dire, monsieur Sarkozy, si on ne vous l'a pas appris quand vous étiez petit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il est...
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur le 93.9.
Alors ce soir, on va recevoir Oumaima et Walid, qui nous rejoindra plus tard de On Orient, un guide, si on peut dire, un média qui célèbre la culture urbaine dans le monde oriental. Ils nous présenteront ce projet ainsi que leur campagne Ulule On Orient Tour qui a fait un carton, il faut bien le dire. Et pendant que certains ont repris la route du travail, d'autres se sont dit qu'il n'était pas l'heure de reposer le tire-bouchon et l'apéritif estival. Alban et Violette passent quelques jours au milieu des vendanges du Beaujolais. Amateurs ou pas d'ailleurs de vin, restez bien à l'antenne. Notre cher Loïc, vous savez, celui la semaine dernière qui vous a peut-être un peu énervé quand il vous a appelé en direct de La Réunion pour nous raconter le piton de la Fournaise et les plages paradisiaques. Lui nous a concocté un petit reportage sur les étudiants qui n'ont toujours pas eu d'affectation APB, soit admission post-bac. Maxime sera aussi avec nous et comme ce garçon est plein de surprises, je n'en dirai pas plus. Oumaima, bonsoir.
Bonsoir Fiona, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Alors, je rappelle que vous représentez ce soir On Orient. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce média ?
Oui, exactement. Donc, On Orient, c'est un web magazine indépendant qui a été créé en 2003 par un collectif étudiant avec un contenu éditorial axé art et culture du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, c'est une région assez vaste qui inclut le monde arabe, mais pas seulement. Ouais. Y a des articles aussi autour de la Turquie, de l'Iran, de la Palestine et d'Israël.
D'accord. Et comment ça s'est fait finalement ce collectif ? Comment il s'est organisé ? Et comment vous avez réussi à fonder ce média ?
Alors justement, à l'époque, donc en 2013, après les événements du 10 printemps arabe, on trouvait que justement il y avait un intérêt à suivre toutes les dynamiques positives de cette région du monde et justement qui ont accompagné aussi les soulèvements à la place Tahrir ou dans d'autres pays, puisque les artistes ont aussi appelé au changement et du coup on s'était d'abord intéressé à cela, à vouloir le partager avec un grand nombre. Et quand je dis nous, je pense notamment au départ à un petit réseau d'amis qui sont aussi connectés grâce aux réseaux sociaux et par les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, on était un petit groupe d'étudiants marocains.
D'accord.
Dont certains étaient au Maroc, d'autres étaient en échange universitaire à Beyrouth. Et puis d'autres, comme c'est un peu la suite logique pour un certain nombre d'étudiants marocains et algériens de finir leurs études en France, qui étaient venus à Paris. Et donc, on a un peu... continuer le travail, compléter, et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui on est une équipe assez éclatée un peu partout, En France, au Maroc et au-delà.
D'accord, du coup, les contributeurs ne sont pas seulement en France, ils sont basés un petit peu partout.
Exactement.
D'accord.
Et quand je dis collectif, justement, c'est parce qu'il y a cette idée-là de liberté de participation. Il y a bien sûr une petite base de fidèles, mais il y a aussi des rédacteurs, chroniqueurs au Canada, au Liban, et le projet Honoré en Tour aussi, dont on parlera tout à l'heure, vise aussi à rencontrer de nouveaux rédacteurs sur les routes.
D'ailleurs, on va en parler tout de suite, parce que Honorient, les gens, on peut leur dire d'aller voir sur honorient.com, je crois, org, je ne sais plus.
Exactement, donc honorient.com pour le magazine, et donc pour le projet, c'est une nouvelle plateforme.
Ouais, voilà, et pour la campagne Ulule, donc c'est un projet qui s'appelle Honorient Tour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet?
Alors justement, Honorient Tour, c'est aujourd'hui une nouvelle rubrique d'Honorient, qui vient d'être créée cette année, avec cette volonté-là d'aller à la rencontre de la création, là où elle jaillit, et qu'on a développé sous le concept de la rihla, qui veut dire voyage initiatique et existentiel en arabe, mais qui désigne aussi des récits de voyage. Donc c'est un genre littéraire arabe qui a été développé par de nombreux explorateurs, dont le chef de file, je dirais, Esri ibn Battuta, donc au XIVe siècle, si je ne me trompe pas.
D'accord.
Et donc nous, on fait un peu une rihla 2.0, où à la fois on va relayer aussi nos impressions, les découvertes et les rencontres qu'on va faire tout au long de 5 mois dans 7 pays différents. Avec une thématique bien précise qui a été choisie par nos lecteurs. Et
c'est-à-dire que vous avez fait appel aux lecteurs sur le site web pour qu'ils puissent vous dire quel angle vous vouliez, ils voulaient que vous preniez sur
aborder.
Le site.
Exactement. Donc il y avait un choix entre 3 sujets. Celui qui a été élu, c'était arabité, notion à géométrie variable, justement pour questionner pas mal de questions. Pas seulement identitaire, mais aussi religieuse, culturelle, et finalement découvrir que le monde arabe n'est pas forcément un bloc monolithique, mais qu'il est riche, varié, divers, et que justement on a des héritages au Maghreb, par exemple, Afrique, un héritage africain, un héritage sahraoui, hassani, dans d'autres pays, il y a aussi des influences phéniciennes, romaines, etc., et que justement on ne parle pas d'une culture arabe, mais de cultures arabes avec S, et aussi une multiplicité confessionnelle ou religieuse qui donne à ce pays toute une richesse incroyable, et qu'on voudrait rappeler, qu'on voudrait justement souligner, parce que c'est ce qui nous a poussé le premier jour à penser le projet. C'était notre constat du fait qu'il y a pas mal d'amalgames parfois, et on a eu quand même une année assez particulière.
Oui, d'ailleurs, dans la vidéo de présentation Ulule, on peut vous entendre le dire qu'il y a aussi l'État islamique qui détruit des lieux culturels, et que vous avez cette volonté aussi de montrer qu'il y a une culture et qu'il y a vraiment, il ne faut pas faire d'amalgame là-dessus, quoi.
Exactement. Donc en fait, le projet est né avec une tribune qu'on a nommée « De la résistance culturelle dans le monde arabe ». Et cette tribune-là était un peu en réaction. On a réagi un peu à chaud, en colère, quand on a vu les destructions à Palmyre, à Mossoul, ou même les attentats à Bordeaux, et qui, pour nous, c'était... on annonçait la guerre à la pensée, on annonçait la guerre à la liberté de s'émanciper, de réfléchir. Et donc, on voulait absolument réagir comme on pouvait, mais dire que justement, c'est le patrimoine-là qui est universel, et c'est notre manière de garder notre histoire et de survivre et d'avoir une mémoire qui dure. Et donc, on n'acceptait pas de le voir ainsi détruit. Et d'un autre côté, on voyait aussi des couvertures médiatiques parfois très simplistes qui facilitent justement les préjugés et la confusion chez beaucoup de gens. Et voilà comment est né justement le projet de la Rihla pour aller à l'encontre de ces dynamiques-là et justement donner une autre image contre de cette région pour en montrer sa richesse et sa diversité.
Parce que pour vous, dans les médias, il y a vraiment eu un vide, un manque au niveau traitement médiatique des deux côtés finalement. On a montré qu'un côté de ce qui se passait.
On a montré... On a parfois utilisé pas les bons mots et du coup aujourd'hui qu'on voit l'utilisation du mot terroriste, c'est utilisé un peu de tort et à travers. Donc non, arabe ne veut pas forcément dire terroriste et arabe ne veut pas forcément dire musulman et musulman ne veut pas dire forcément arabe et il y a pas mal de choses à remettre en question avant d'utiliser... des termes rapidement.
Alors, je vais vous proposer qu'on écoute une petite présentation parce que vous êtes quatre à partir grâce au projet Ulule.
On est trois à nous déplacer, par contre.
Vous êtes trois à vous déplacer, donc c'est peut-être Mehdi qui reste ou...
Non, Mehdi est le photoreporter.
Ah, donc c'est mieux qu'il parte. Donc du coup, on va revenir à vous juste après, mais je vous propose d'avoir la présentation du coup de Gita et Ajar. C'est ça ?
Après avoir grandi au Maroc, j'ai rejoint Paris en classe préparatoire, puis j'ai intégré HEC. Amoureuse de lettres, j'ai continué à nourrir cette passion par une licence en philosophie à la Sorbonne et en écrivant pour Honoré. Finalement, Honoré en tout, c'est pour moi une manière de conjuguer cette passion pour les lettres et l'écriture et de la mettre au service d'une cause qui m'est chère, une promotion culturelle qui rapproche les peuples.
Après 16 ans passés à La Haye, un passage plus court en Belgique et en Allemagne, j'ai atterri à Paris pour mes études de droit. Aujourd'hui, je termine mon master à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Enfant du Maroc et d'Europe, je veux promouvoir le dialogue interculturel à travers l'initiative Honoré en tout.
Ah voilà, on a entendu Rita et Ajar. Donc vous êtes Oumaïma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, du coup, vous présenter ?
Exactement. Donc ce qui est intéressant dans l'équipe, c'est qu'on a des parcours différents et aussi des backgrounds différents. Donc on a entendu dans l'ordre Ajar et Rita se présenter. Et moi, donc, je suis Oumaïma Ajaraï. Aujourd'hui, j'ai presque 23 ans et j'ai grandi au Maroc jusqu'à et j'ai débarqué en France après avoir eu mon bac pour mes classes préparatoires à Lille, donc au nord. Et donc, avant d'arriver en France, j'ai fréquenté plutôt l'école publique marocaine. Donc, ce qui fait que mon éducation s'est faite principalement dans des bancs populaires et en ayant l'arabe comme langue principale. Donc, j'ai eu l'opportunité d'apprendre le français et d'avoir aussi une famille qui pouvait le parler à la maison, ce qui a fait que j'ai pu soutenir et progresser et améliorer mon niveau et aujourd'hui continuer mes études ici en France et intégrer justement une grande école qui est notamment HEC où j'ai rencontré Ajar avant de faire aussi une licence à la Sorbonne, histoire du cinéma.
D'accord, alors on a dit que Mehdi était le photoreporter, donc lui il part, donc c'est Rita qui part pas, c'est
exactement.
Ça. Alors comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'il y a eu une sélection des contributeurs sur le site web ou c'est vraiment les gens qui étaient à l'origine du projet, donc vous, qui partaient quoi ?
Comme on disait tout à l'heure, la jeunesse du projet c'était la tribune et la tribune a été co-signée par nous trois, Rita, Ajar et moi-même. Donc la tribune, on l'a écrit un peu comme des cadavres exquis, où on avait fait un quip, qui est l'application sponsor de nos orientaux. Enfin, quand je dis sponsor, c'est juste parce qu'on l'utilise tout le temps.
D'accord.
Pour justement travailler sur nos contenus et fédérer et coordonner le travail. Et donc voilà, on a co-écrit la tribune et quand on a vu que la tribune avait reçu aussi le soutien de pas mal de personnalités publiques, je pense notamment à Yasmine Ardala, Nabil Ayouch, réalisateur marocain, Mehdi Binbin, artiste plasticien, Satriali et j'en passe. Justement, voilà, c'était la suite logique de mener le projet ensemble. Et donc voilà, on a un peu réparti les tâches entre démarchage, campagne Ulule, communication, réseaux sociaux Et ça s'est fait assez naturellement, puisque Mehdi, il est en marketing digital, donc c'était
c'est instinctif,
soit lui qui fasse un peu toutes les illustrations, qui communique dessus, enfin qui fait c'est le community manager de Norian.
D'accord.
À la base. Ouais.
Ok, ben je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans les détails de ce qu'est ce projet Ulule et de ce qu'il contient juste après une petite pause musicale. Et c'était Siso de Jamie XX.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Et on est toujours sur Radio Camping Paris avec Oumaïma. On parle de Honorient et plus particulièrement du projet Ulule Honorient Tour. Et Walid nous a rejoint. Bonsoir Walid.
Bonsoir.
Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Parce que bon, les auditeurs, ils arrivent comme ça, toi t'arrives en studio. Qui es-tu?
Alors, je vais rejoindre le projet Honorient, et plus précisément Honorient Tour, autant que background sur Paris. Donc,
d'accord.
Tout ce qui sera écrit et publié sur nos réseaux sociaux, donc sur notre Twitter, notre Facebook, mais aussi sur notre site internet. Et on aura aussi une petite surprise qu'on annoncera en fin d'émission.
Ouais, donc, la voix venir celle-là.
Donc ça sera revu un peu par l'équipe qui sera sur Paris et je serai en charge de cette tâche.
Ok, bah, Oumaïma nous a un peu expliqué Honorient Tour, ce que c'était, enfin comment le projet avait été mis en place, comment il avait vu le jour, et qui aussi allait partir sur place. Alors finalement là, le départ approche, mais il y a quoi comme parcours? Vous allez partir dans plusieurs pays différents. Il y a quoi comme pays et c'est des dates précises?
Oui, exactement. Alors on part dans quelques jours en fait. On est le 7 aujourd'hui.
On est le 7, ouais. Je crois que c'est la semaine prochaine, non?
Quelque exactement. Chose comme ça. Ouais. Donc c'est le 13 septembre le jour du grand départ. On part dans 7 pays différents et on commence par le Maroc pendant okay. 2 semaines. Et donc dans une suite logique géographique, on ira par la suite en Algérie. On passera aussi plus ou moins 13 jours en Tunisie, en Égypte, au Liban, Qatar et puis Émirats pour finir.
Ok, comment ils ont été choisis ces pays? C'est pas anodin, j'imagine?
Justement, on avait cette thématique-là qui est l'arabité, notion de géométrie variable, et qui supposait plusieurs questions, notamment celle de la langue, de la religion, de l'histoire commune. Et donc, on voulait partir dans des pays arabophones. Et aussi, pour des raisons de sécurité, plusieurs pays ont été
évincer un petit peu
évincer de la liste. Et enfin, on voulait aussi, et là est tout l'intérêt du projet, c'est vraiment aussi d'aller à la rencontre des artistes contemporains qui donnent un peu un nouveau souffle à la création de cette région-là. Donc on cherchait plus ou moins les cœurs battants, les villes, enfin artistiquement parlant. Donc on cherchait les villes où on pouvait rencontrer le plus d'artistes, où il y a le plus d'initiatives. Et c'est comme ça que l'itinéraire s'est construit, ville par ville et pays par pays.
Donc là, vous savez exactement quels artistes vous allez rencontrer. Vous partez un peu à l'aventure dans ces villes, voir un petit peu ce qu'il y a comme... comme artiste?
Alors, on a quand même un peu bien bossé et bouclé les cheveux, donc on sait exactement. Enfin, notre agenda est fait jour par jour.
Ok.
Avec même les heures de repos qui sont prévues.
En même temps, le planning a l'air chargé. Hein, si vous allez
très
sur,
chargé.
Les auditeurs, si vous allez voir sur la campagne Ulule, c'est vrai que c'est assez c'est pointilleux, quoi. Jour, ce qui va s'y passer, quoi. Ça va être un peu de pression, non?
Pour le moment, oui, on stresse un peu, mais avec Ajar, on a eu l'occasion déjà de faire un petit essai 48 heures à Marrakech pour voir comment les choses pouvaient s'annoncer. Donc on a joué le jeu, on s'est déplacé à Marrakech chez notre partenaire, puisque dans chaque pays, en fait, on a un fixeur qui nous aide justement à nous connecter aux acteurs culturels du pays et justement à choisir lesquels seraient intéressants pour la Rihla. Et donc à Marrakech, on a été rencontrer Valérie Esdurocher d'ailleurs, que je remercie très sincèrement et chaleureusement. Qui nous a accueillis chez elle et qui nous a du coup emmenés de galerie au musée.
Vous avez tout fait découvrir autour de Marrakech, quoi.
Voilà, on a fait un planning de 48 heures. C'était assez intense parce qu'en même moment, on a dû interviewer les gens. Enfin, aussi... voir comment on pouvait justement poser la question sans que ça soit... dérangeant pour les artistes que de leur demander leur opinion sur leur identité, sur leur conception de leur culture, sachant qu'ils ils se comptent tous haut et fort leur universalisme, ce qui n'est pas du tout en contradiction avec l'investigation terrain qu'on voudrait avoir. Mais voilà, c'était assez intéressant de voir comment on allait aborder l'exercice en aval.
Bah d'ailleurs, on a retrouvé un petit son qui présente justement les 48 heures de Marrakech, donc m'avait un peu devancé, mais c'est génial. Comme ça, vous avez présenté un petit peu ce que vous aviez fait là-bas. Et donc, notre cher Antoine va nous lancer le petit son des 48 heures de Marrakech.
Marrakech, la lumineuse, la ville ocre. L'icône touristique du Maroc. Dans cette ville où les murs transpirent d'histoire, c'est par la porte des arts que nous avons voulu entrer. Lancement officiel de notre Rihla, qui commencera le 15 septembre prochain et qui parcourra 7 pays, nous avons exploré la face artistique de Marrakech pour vous donner un avant-goût de ce que sera le Orient Tour. En 48 heures, nous avons interviewé certains de ceux qui font vibrer le cœur artistique de la ville. Et puis, l'expérience Marrakech, c'est aussi se laisser guider par les senteurs et couleurs de la Médina. Quitte à se perdre dans le dédale de ses ruelles, là où les Darbel Ferran se succèdent mais ne se ressemblent pas. Des lieux institutionnels aux galeries, en passant par un espace de création alternative, les échanges sont sincères et les discussions passionnées. L'aller-retour entre le passé et le présent structure la vie. Jusque dans les palais sadiens. Et puis, comme elles sont plusieurs à s'installer au centre-ville, nous avons poussé les portes des galeries pour découvrir leurs expositions.
Figuratif. On a Alex Wayne, visiteur marocain, visiteur étranger.
Ces Ces 48 heures étaient chargées de belles rencontres que nous avons hâte de poursuivre tout au long des 5 prochains mois. Rendez-vous le 15 septembre pour le lancement de notre livre. Nous vous dévoilerons au fur et à mesure nos rencontres à travers des articles, des reportages photos et séquences vidéo sur tour.enorient.com. Mais pour faire de ce projet une réalité, nous avons encore besoin de vous sur la plateforme Ulule.
Et voilà, c'était le son des 48 heures de Marrakech que Omaïma vous avait fait dans le cadre de En Orient avec En Orient Tour, pardon. Donc alors, on va revenir, du coup, vous nous avez un peu expliqué avant qu'on lance le son qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 48 heures à Marrakech, que voilà, vous avez été rencontrer plein de gens, faire plein d'interviews. Donc ça, c'est un avant-goût de ce qui va se passer finalement pour les prochaines semaines.
Exactement, et pour comme c'est un petit teaser annonciateur en couleur, nos jeunes
auditeurs peuvent
aller se rendre sur notre plateforme tour.enorient.com ou sur notre page Ulule qui est toujours disponible dans la catégorie news, retrouver la vidéo pour voir un peu quel support audiovisuel nous allons produire pendant la Rihla, sachant que ce n'est qu'un teaser, donc un petit avant-goût de ce qu'ils peuvent attendre.
Vous allez produire ce genre de vidéo tout le long du pays, enfin à chaque pays où vous allez aller?
Alors, on a 3 rubriques sur notre plateforme, pardon. Donc la rubrique Alhan, qui veut dire musique, enfin qui veut dire rythme, mélodie, pardon, en arabe, et que du coup, c'est là où on postera tout ce qui est relatif aux groupes musicaux. Il y a la rubrique Ashkal qui veut dire forme et donc qui sera dédiée aux arts visuels. Et ensuite, okay, il y a la rubrique Amaken, donc lieu, lieu de mémoire, lieu de patrimoine, institution qu'on aura l'occasion de visiter et donc où on pourra faire des transcriptions de nos visites hors des sentiers battus. Et donc voilà, il y aura un contenu éditorial, donc on rédigera des portraits d'artistes et de groupes, et qui seront aussi agrémentés de reportages photos. Et à la fin de chaque étape, donc à la fin de notre séjour dans chacun des pays, il y aura des vidéos récapitulatives un peu de ce qui s'est passé pendant les 2 semaines, voire un mois.
Que Walid pourra retransmettre après sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Alors, il y avait un objectif, de 8 800 euros pour le projet Ulule. Ça a cartonné, c'est-à-dire que vous avez dépassé le... Je crois que vous êtes à 8 920, quelque chose comme ça.
Tout à fait, oui. On a atteint les 8 920, 101%.
Alors, j'imagine quand même que l'argent qui a été récolté, c'est pour les frais de transport, j'imagine, les supports aussi audio, vidéo, pour pouvoir faire l'enregistrement.
Une partie, 23%,
et le reste, ça va être pour...
Alors, on est encore en négociation avec certains partenaires, et on compte aussi beaucoup sur le milieu associatif, donc pour justement réduire nos coûts de logement. Loger chez l'habitant, chez l'artiste si possible, pour réussir justement à boucler notre plan de financement.
D'accord, on va finir avec une annonce que Walid a à nous faire, je crois, parce que malheureusement le temps passe et on doit passer à un autre sujet. Walid, dis-nous tout.
Alors, déjà, je tenais à remercier nos 235 contributeurs sur Ulule. Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on a pu amasser cet argent et c'est grâce à vous qu'on pourra partir et j'espère qu'on sera à la hauteur. Alors, grâce à Radio Campus Paris, on pourra avoir, on aura droit à 5 minutes hebdomadaires ou bimensuelles. On n'a pas encore décidé, mais ça va se faire assez rapidement.
D'accord.
Et ça sera un carnet de voyage en Orient Tour. On pourra parler de ce que pourront voir sur place et ce qu'ils vont vraiment vivre et toucher sur place nos 4 explorateurs.
D'accord.
Et grâce à vous, et l'aventure pourra continuer justement.
D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous parler sur Radio Campus Paris.
Merci, Chana.
Et à très bientôt. Oh. Et c'était You Will Never Know de Point Point.
Radio Camping Paris.
Et vous êtes toujours sur Radio Camping Paris. Et ce soir, eh bien, nous avons Alban et Violette en direct des vendanges du Beaujolais. Est-ce que vous m'entendez ? Allô, allô ?
Allô, oui. M'entendez-vous ?
Oui, ça va, Violette ?
Oui, ça va très bien. Et vous-même ?
Bah écoute, ça va. On est un peu très content de savoir que tu es dans les vendanges du Beaujolais pour la première fois. Est-ce que tu peux nous dire un peu pour cette première fois ce que tu as vu, comment ça se passe, si tu as beaucoup bu ou pas ?
Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup bu, mais ce que j'ai vu en arrivant, c'est surtout un paysage magnifique, des vignes à perte de vue. Il y a une cinquantaine d'hectares de vignes là où on est. Ce que j'ai vu surtout, c'est un soleil magnifique. Alors ça, je vous avoue que c'est quand même important, puisque quand tu ramasses du raisin, t'es souvent un peu courbé à quatre pattes, voilà. Donc c'est quand même plutôt agréable d'avoir des conditions météorologiques favorables.
Oui, voilà. Quand même.
Donc bah écoute, pour moi, la première expérience, c'était, je m'attendais à quelque chose de plus douloureux. Je m'attendais à souffrir du dos, je m'attendais à avoir mal partout. J'ai fait qu'une demi-journée, hein, parce que moi je suis arrivée ce midi, mais pour le coup, le dos ça va à peu près.
Ouais.
Ce qui est beaucoup plus douloureux, c'est plutôt les mains. Parce que quand tu ramasses du raisin, tu as trois solutions. Soit tu le ramasses avec une serpette, soit tu le ramasses avec un sécateur, soit tu le ramasses avec tes mains. Parce que tu peux tout à fait casser la partie qui connecte la grappe de raisin à la vigne en elle-même. Donc
ouais.
Quand tu le fais avec tes mains, bah, tu dois attraper la grappe, tu dois casser ce petit morceau. Et donc, au bout d'un moment, bah, tu as les mains un petit peu douloureuses.
Et du coup, tu as choisi d'utiliser tes mains plutôt que le sécateur, par exemple?
Peut-être parce que je ne suis pas très douée de mes mains. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, moi, je trouve, de faire ça avec tes propres mains. Après, il faut savoir que tu ne peux pas le faire partout. Il y a des vignes dans lesquelles cette partie est beaucoup plus dure et beaucoup plus épaisse, et donc du coup tu es obligé d'utiliser un sécateur, notamment ailleurs en Bourgogne, il y a d'autres vignobles où tu es censé utiliser un sécateur, parce que tout simplement tu ne peux pas faire autrement, car si tu utilises tes mains, tu meurs, voilà. Tes mains décèdent.
Et toi, tu vas rester jusqu'à quand?
Moi, je reste jusqu'à mercredi soir, et normalement les vendanges doivent se terminer soit mercredi soir, soit jeudi matin.
Moi, je crois qu'elles ont commencé
à l'avancée des travaux.
Ouais, je crois qu'elles ont commencé plus tôt cette année, non, les vendanges?
Je sais pas tellement si elles ont commencé plus tôt. Je vous laisserai poser la question à Alban, qui est beaucoup plus qualifié que moi.
Ah oui, lui, c'est pas ses premières.
En tout cas, l'impression que ça m'a fait, c'est que la phrase que tu entends tout le temps, moi, je m'attendais, à ce qu'on... Bon, évidemment, c'est la bonne ambiance, hein. Tout le monde rigole, tout le monde chante. C'est vraiment très, très sympa comme ambiance. On est une trentaine, hein, dans les vignes à faire le ramassage. Bon, la phrase que t'entends tout le temps, c'est « passe-moi ta caisse ».
D'accord.
Ah oui, parce que, en fait, tu prends le raisin, tu le mets dans une caisse et t'as des tâches bien définies. Donc t'as ceux qui ramassent, qui mettent dans les caisses, et t'as ceux qui portent les caisses jusqu'au camion qui t'attend en bas des vignes et qui ramènent le raisin jusqu'au château, là où il est ensuite traité, etc. Bon, ça, c'est Alban vous expliquera ça, parce qu'il a une science du vin qui est incommensurable, comme vous l'imaginez.
Ah, ça ne m'étonne même pas. Il est avec toi, d'ailleurs, je crois.
Il est avec moi. Est-ce que vous voulez que je vous le passe?
Ah bah écoute, on va avoir l'avis d'un expert maintenant, quand même. Mais bon, te tue pas trop les doigts quand même. Hein.
L'expert en vendange est à côté de moi, je vous le passe dès à présent. Alban,
ah, merci Violette, et puis prends soin de tes mains.
Oui, bonjour Campus Paris.
Bonjour Alban, comment vas-tu?
Mais écoute, pas mal. Enfin, on a un grand ciel bleu dans le Beaujolais, donc.
Ouais, c'est ce que nous disait Violette, que c'était plutôt sympa. Oh, à Paris, tu sais, il fait déjà nuit, j'ai l'impression. Hein, Charlène disait tout à l'heure que quelqu'un avait éteint le ciel, donc voilà.
C'est dur.
Ouais.
C'est dur. Bah peut-être te dire où est-ce qu'on est en fait. Après tout, on est dans le Beaujolais, à la pointe du Beaujolais, pas très loin de près de la frontière avec la Bourgogne, c'est un endroit qui s'appelle le Château de Poncier, hein, ou Villa Ponciego. Et je peux te dire, depuis là où je suis, bah, grosso modo, on voit des vignes partout. En fait, c'est pas compliqué, c'est vraiment la spécialité de la région. Et donc c'est vert partout, il y a un peu des collines, là, je vois juste devant moi le soleil qui se couche.
Est-ce que tu serais en train d'essayer de nous rendre jaloux, Alban?
Un petit peu quand même, donc, surtout que j'ai une vue sur le Mont Blanc, là, si je...
Ah, merci beaucoup. Nos invités sont en train de hocher la tête avec beaucoup de jalousie, merci.
Écoute, pas de quoi. Bah, te dire, bah écoute, sinon que te dire...
Bah toi, c'est pas ta première vendange, je crois. Violette nous disait que t'étais un peu un expert dans la matière.
Ah, Ouais, Violette a très bien vendu l'affaire. Non, écoute, c'est pas mes premières vendanges. C'est vrai que je reviens très souvent. Parce que ce qui est très très gai, c'est que tu rencontres énormément de gens différents aux vendanges. Hein. Tu rencontres à la fois des gens du voyage, des étudiants qui sont là juste pour la semaine. Tu rencontres aussi des Polonais, des Roumains, des Espagnols, des Italiens, bref. Je te passe le truc parce que c'est une vieille tradition, les vendanges. Hein. On cultive du vin depuis quasiment 6000 ans. Là, pour te donner une idée, l'endroit où on est, c'est quand même un endroit où on cultive le vin depuis plus de 1200 ans. Donc c'est bon, ça met en perspective quand même. Hein.
Oui, quand même. On a un peu d'expérience.
Puisque j'ai été désigné comme l'expert en vin, je peux t'expliquer pour ceux qui nous écoutent les étapes en fait, hein, parce que c'est facile. Quand tu as ta bouteille de vin, tu te dis ma foi c'est du vin et puis voilà. Mais c'est quand même long le processus pour arriver à ta bouteille, parce que d'abord tu coupes le raisin, et puis tu le mets dans ta caisse, et puis tu le coupes, tu le mets dans ta caisse, et puis ça dure la durée des vendanges. Mais bon, après ça, on met tout ce raisin en cuve, et puis on le pige, donc c'est-à-dire que grosso modo tu prends un harnais, tu t'attaches avec le harnais et tu écrases le raisin avec tes pieds. Parce qu'on pourrait croire que ça c'est une tradition qui a déjà disparu depuis bien longtemps, mais en fait ça reste la manière la moins chère de mélanger ces grosses cuves, hein, qui font plusieurs dizaines voire centaines d'hectolitres.
D'accord, et donc puis, quand je vais ouvrir la prochaine bouteille de Beaujolais que je vais ouvrir, je vais penser à tes pieds en fait.
Exactement,
d'accord,
tu pourras
parfait.
tu pourras penser à moi. Et
d'accord.
Puis, si tu veux, ces grosses cuves, elles restent pendant 2-3 mois, hein, on les mélange, on rajoute parfois quelques levures pour que le tout, pour que la fermentation, la transformation en alcool se passe bien. Et puis ensuite, une fois qu'on a tout ça, on le met dans des tonneaux en chêne, et on les laisse mûrir environ une année, deux années parfois, avant du coup de les mettre en bouteille. Et puis c'est ça qui arrive du coup dans tes mains quand tu fais un repas le soir et que tu veux ouvrir une bouteille avec des amis.
D'accord, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que les auditeurs auront très envie d'ouvrir une bouteille de Beaujolais, qui penseront à toi.
Absolument, mais puis écoute, tout à l'heure on visitait un petit peu les caves et puis on visitait tous les tonneaux qui sont déjà entreposés. Et ça serait, en tout cas, on invite tous ceux qui nous écoutent à venir déguster ça dans le Beaujolais avec nous l'an prochain.
On pourrait faire une petite soirée.
Voilà, une petite dégustation. On est du côté de Fleury, hein, pour regarder sur Internet. Hein, c'est les vins de Fleury d'ailleurs. Hein, tu as des appellations pour chaque vin. On vous attend pour une petite dégustation. Et puis, d'ici là, nous, on va continuer à couper notre raisin. Hein.
Merci beaucoup. Et puis, embrasse Violette. Et puis, dis-lui de faire attention à ses mains, la pauvre. Et puis,
je voulais dire de faire attention à ses mains. Et puis, on fera attention à pas trop boire aussi, hein, parce que ça fait partie de la tradition des
vendanges. Oui, puis on vous connaît, vous deux, quand même, un petit peu.
Hein,
voilà. Allez, avec modération, quand même, Alban.
Hein. On boira avec modération.
Voilà. Allez, merci beaucoup. Passe une bonne soirée.
Allez, mais merci à toi, en tout cas. Bonjour, grosse bise à tous.
Ok.
Bonjour à Paris.
Ok, ciao.
Bon vacances. Allez, salut. Tchuss.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Hop là, donc voilà, c'était Alban. Donc pour ceux qui ont envie d'être experts en vin, il y a pas mal d'applications que vous pourrez trouver sur les smartphones. Hein. Je ne vais pas en donner quelques-unes parce que avec modération, on a dit. Et puis on a Loïc, notre cher Loïc. C'était à l'université d'Évry que le nouveau secrétaire d'État à l'éducation supérieure et à la recherche, Thierry Mandon, est allé pour sa première entrée universitaire. Alors l'occasion pour Radio Campus Paris de l'interroger sur les 7000 étudiants qui sont toujours sans affectation. Loïc y a été pour nous en reportage.
C'est l'heure de la rentrée pour plus de 600 000 étudiants en Île-de-France, enfin à une condition, qu'ils aient eu une place dans l'univers impitoyable de l'éducation supérieure. Pour cela, depuis 2009, il faut passer par un site internet admission post-bac, APB pour les intimes, un système qui est loin de ne faire que des heureux.
Moi j'ai eu mon deuxième vœu et c'est vrai que la relation avec les universités ou les écoles sur la liste d'attente par exemple, savoir quel nombre on est sur la liste d'attente pour... soit abandonner le choix, soit vraiment y croire à fond. C'est vrai que ça aurait été un peu mieux.
Tu t'inscris, si t'es refusé, tu dois attendre genre une semaine pour pouvoir te réinscrire. Ils t'expliquent pas pourquoi t'as été refusé. Moi, le truc qui est complètement con, c'est par contre, j'ai mis la fac d'Evry en premier truc, mais j'ai mis Orsay et j'ai été acceptée ici. Du coup, ça m'a annulé tous mes vœux. Du coup, je savais même pas si j'étais acceptée à Orsay.
Moi, j'ai mis Evry pour la sécurité, parce que moi aussi, au départ, donc voilà, je voulais aller à Créteil. Et voilà. Après, c'est tirage au sort, donc. C'était le tirage au sort, donc voilà. Moi, je connais d'autres gens qui ont mis 6 TAP, mais qui n'ont jamais été pris et qui ont fait une année de. Donc, ils ont fait une année d'éco et au final, ils ont arrêté, donc ça ne servait à rien.
Plus grave, aujourd'hui, au niveau national, c'est plus de 7000 étudiants qui seraient encore sans affectation. Une situation sur laquelle le tout nouveau secrétaire d'État à l'éducation supérieure et à la recherche, Thierry Mandon, a été interpellé.
On a mis en place un double dispositif. On a un dispositif de mobilisation des recteurs qu'on réunit mardi qui vient. Sur ces situations-là, qu'on suit quantitativement, c'est-à-dire que je sais précisément jour par jour combien il nous reste d'étudiants à faire entrer. Et deuxième niveau, j'ai dans mes équipes, maintenant au cabinet, quelqu'un qui est ici, qui est le référent ultime de toutes les situations. Donc normalement, on doit régler, normalement, on doit régler toutes les situations. D'ici la fin du mois, il y a quelques personnes qui vont rater la rentrée scolaire de quelques jours. Mais on suit vraiment au cas par cas les choses.
Pour certains, la solution se trouve dans l'accompagnement des futurs étudiants, avis que partage Julie Elmocrani-Thomasson du Bureau national de l'UNEF.
Ce qui manque, c'est de l'accompagnement. C'est de faire en sorte qu'au moment de rentrer ses vœux, au moment de valider ses vœux, un étudiant ne soit pas tout seul. Les phases de validation des vœux APB se font à un moment où on n'est pas dans un cadre scolaire.
Ce qui est sûr, c'est que le ministère a un an pour revoir sa copie et éviter aux futurs étudiants d'avoir le même problème à la rentrée 2016.
Et c'était un reportage de Loïc Gazard. Merci beaucoup Loïc. Et on va écouter une petite pause, enfin une petite musique tout de suite là, voilà.
Nature alone.
Et c'était Running Child de Martin May.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Eh bien, Maxime nous a rejoint en studio. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Fiona, quelle surprise.
Ah, j'adore quand tu fais cette petite voix. Dis-moi tout, qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir?
Ah, rien d'original, seulement un quiz de culture générale.
Un quiz de culture générale, donc ça y est, la rentrée scolaire arrive, toi t'attaques directement les auditeurs comme ça avec un quiz de culture G. Ok, pas de soucis.
Savoir ouais. Si ils ont les connaissances nécessaires pour pouvoir, je dirais, entamer cette rentrée avec le plus de sérénité et d'humilité aussi.
Très bien, ok, vas-y, fais-nous peur.
Première question. Dans les années 60, 1960 bien sûr, pour la fabrication de quels objets courants servait la bakélite ?
Bakélite.
La bakélite.
Je crois le savoir.
Oh là, attention, Antoine Le Réal qui arrive.
Est-ce que ça a rapport avec la cuisine ?
Non.
Non, ah, raté.
Je ne le sais pas.
je ne sais pas. Walid, une petite idée ?
Les schtroumpfs ?
Les schtroumpfs ?
Non. Non.
Bien essayé. Au merci, Sean, peut-être.
Qui existe ?
C'est un produit d'hygiène ?
Non, pas du tout.
Et pas alimentaire non plus.
Non, pas du tout
pas alimentaire. Pas
alimentaire,
ok.
Bâtiment.
Il y en a ouais, dans bâtiment ce... peut-être.
Non, non, non. Il y en a dans cette pièce, mais à l'époque, ils étaient de formes différentes.
Des chaises.
Ouais.
Non.
Ah, des micros.
Non. J'en vois trois sur la table.
Les téléphones.
Oui. Les téléphones. Les gros téléphones noirs, ils étaient en bakélite. Même les radios aussi. Le plastique épais. C'était du bakélite.
Ok, bah écoute, voilà.
Bon, ça va.
Voilà, zéro partout, hein. Voilà, personne n'a trouvé. Merci Antoine pour ta participation.
Mais je vous en
prie. Vas-y.
Le diplomate britannique Robert Stewart, que personne n'a oublié, marquis de Londonderry, se tue le 18 août 1822 en se tranchant la gorge avec quoi ?
Une corde.
Une aiguille à coudre ?
Non plus.
Tu sais, les trucs pour ouvrir les enveloppes, là, non ?
Ah oui, comment ça s'appelle ?
Ah purée, j'ai loupé le truc. C'est les mini-couteaux.
Ouvre-enveloppe ?
Non, pas ouvre-enveloppe.
Non, mais j'ai une mousse sur le bout
de la langue. Couteau
à enveloppe ? Non plus, mais c'est pas loin.
Purée, Antoine, s'il te plaît, sauve l'honneur. Non, je
ne
sais pas.
Oh, la pression, maintenant, pourquoi moi ?
Avec quoi on ouvre le courrier ? On ouvre le courrier avec un...
Bah maintenant, ouais. Maintenant,
oui, non, bien
courrier.
Sûr,
maintenant,
mais l'objet.
Maintenant avec la souris.
À l'époque, oui, à l'époque, bien sûr, mais avant avec un.
C'était les cachets de cire là.
Non.
Après,
non plus, pour l'ouvrir.
Non, mais j'ai le mot sur le bout de la langue, je ne trouve pas, tu sais.
Non plus, non, c'est pas pour ouvrir l'enveloppe. Pour déchirer le papier.
Tu sais, c'est. Mais non, c'est couteau, mais là, mais tout de suite
oui,
au
oui,
bout
oui,
là.
Voilà. Tu prends couteau, tu prends la première syllabe, ça fait quoi ?
Coup.
Coup.
Très bien. Tu
coupe papier.
Oui,
oh,
bravo.
Oui. Tout ça pour ça. Allez, on est resté 1 minute 30 là-dessus.
Bravo, bravo. Quel objet est un assemblage d'un assez grand nombre, attention, soyez bien attentifs. Quel objet est un assemblage d'un assez grand nombre de feuilles ou long support souple roulé dans l'Antiquité, portant des signes destinés à être lus.
Papyrus.
Non. Un objet qui est un assemblage d'un assez grand nombre de feuilles portant des signes destinés à être lus.
Un manuscrit.
Non.
Ah oh bah écoute.
Mais on n'est pas loin du tout.
On
un livre.
Un livre. Oh, bonne réponse. Bravo.
Oui, oh, bon, à l'époque, un manuscrit, non, je sais pas. Merci Oumaïma pour ton soutien. Allez, une petite dernière pour la route.
Allez, une dernière. Une dernière. Depuis le 26 mai 1964, Los Angeles est jumelée avec quelle ville française ?
Los Angeles ?
Ouais, c'est une grande ville, hein, française. C'est pas
Lyon.
Dans la ferrière, quoi. Non, c'est pas Lyon.
Lille ?
Non, plus au sud.
Bordeaux ?
Oui, bravo.
Bah, dis donc, bah écoute, il y a un partout pour les filles, hein. Bah écoutez, merci à nos invités d'être venus ce soir dans notre émission.
Merci
à Alban et Violette pour nous avoir fait découvrir les vendanges du Beaujolais et nous avoir donné envie d'ouvrir une bouteille. À Loïc pour son reportage, à Elsa à la coordination, à Antoine à la réalisation et à Maxime pour son meilleur quiz de culture générale.
De rien.
Restez bien à l'écoute sur Radio Campus Paris.
Pour écouter les labos de l'histoire.
Ah, tout à fait.